Culture croisée sur Radio Orient.
Vous êtes à l'écoute de Radio Orient, bonjour à toutes et à tous. Mise en récit, stratifiée, rêvée, parfois mythifiée, la ville de Fès continue de fasciner autant les historiens que les urbanistes. Aujourd'hui, nous recevons un chercheur dont le travail renouvelle profondément notre compréhension de cette cité millénaire à travers une approche mêlant archéologie, anthropologie, historique et analyse urbaine. Il revisite les fondements même du récit national et propose une lecture inédite de la sédimentation de Fès entre Dédale, Gris et Tâche. Un regard neuf, exigeant, qui interroge aussi bien les héritages médiévaux et les ruptures coloniales, les défis bien sûr pour cette ville très ancienne au Maroc. Ensemble, nous allons essayer de comprendre et d'explorer ce que la pierre raconte, ce que l'espace révèle et ce que la ville nous dit de nous-mêmes. Merci beaucoup Dr Mohamed Metalsi, merci d'avoir accepté notre invitation.
Je te remercie Zohar de m'avoir invité pour m'entretenir sur mon livre Le temps de Fès entre mythe et métropole.
Je rappelle les auditeurs que Mohamed Metalsi est urbaniste, docteur en esthétique et spécialiste des villes du monde arabe, ancien directeur des actions culturelles à l'Institut du monde arabe et ancien doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université Euromède de Fès. Il consacre ses recherches à la morphologie urbaine, à l'histoire des mentalités et aux arts traditionnels. Mohamed Metalsi est auteur de nombreux ouvrages de référence sur les villes marocaines et leur patrimoine. Il s'est notamment illustré par ses travaux sur Fès et Tanger. Son parcours a été récompensé par la classe exceptionnelle de Wissem de mérite national et par le grade d'officier de l'ordre des arts et des lettres. Après ton ouvrage majeur sur Tanger, qu'est-ce qui t'a conduit à reprendre tes recherches sur Fès et à en faire le cœur de ton nouveau travail, Dr Mohamed?
C'est la logique de la continuité. D'abord, avec l'éditeur, on va faire une collection qui s'intitule « Cité mémoire du Maroc ». Donc le prochain livre, ça sera sur Tétouan. Et après Marrakech et ainsi de suite. Ça, c'est mon projet, Inch'Allah, à l'avenir. Deuxièmement, le travail que j'ai fait, il a été édité par l'édition Malika et en partenariat avec le CCME. Donc c'est un livre qui a été réfléchi depuis des décennies, parce que j'avais commencé déjà par un livre en 2003 sur Fès, la ville essentielle, mais il était consacré simplement à la période précoloniale, c'est-à-dire la Médina simplement, même si j'ai parlé un petit peu des mutations du XXe siècle, mais simplement consacré à la Médina. Et bien, souvent, sur Fès, quand on demande d'écrire un livre sur Fès, on vous demande d'écrire sur la Médina, et ça c'est une question que je me pose, parce que Fès n'est pas simplement la Médina. Fès, c'est une ville qui a grandi, qui a des problèmes contemporains, on a construit plus qu'avant, parce que normalement aujourd'hui il y a 11 000 hectares. Et la Médina elle-même, entre le Bassel Bel et Tajdid, les Agdal, fait à peu près 300 hectares. Donc de 300 hectares à 11 000 hectares, c'est quand même tout un monde. Et puis chaque organisation du bâti, c'est une temporalité, c'est un mode de vie, c'est une culture. Mm-hmm. Comme diraient les philosophes, c'est un épistémé. Donc, j'étais presque dans l'obligation de faire une recherche complète pour comprendre la ville de Fès aujourd'hui. Mm-hmm. Et puis, mon livre premier qui était consacré à mes villes natales, c'était un livre sur Tanger. Et c'est le livre d'aujourd'hui, c'est sur Fès. Mais il fait quasiment 500 pages. Donc, c'est un livre majeur sur la ville de Fès aujourd'hui.
Quelle est la différence entre Tanger et Fès?
Donc, deux choses. Tanger et Fès sont deux visages très différents du Maroc. Et au-delà de toute formule théorique, c'était tout simplement, pour moi, passionnant d'étudier deux villes aussi radicalement différentes. C'est le contraste entre leur trajectoire, leur histoire, qui rend la confrontation passionnante pour pour moi en tant qu'urbaniste et en tant que chercheur dans les, sur les villes. Mmh. D'abord, Tanger, c'est la ville de la discontinuité. Pourquoi ? Parce qu'il est excentré, maritime, il a toujours été ouvert aux conquêtes et aux destructions. Et souvent, il était absent de l'histoire du Maroc, de l'histoire de ce territoire pendant les dynasties. Ses sédiments matériels sont verticaux. Des villes anciennes, européennes, parce qu'elles étaient occupées par les Portugais, les Espagnols, les Anglais. La ville musulmane avant les Portugais, la ville musulmane médiévale, et la ville romaine, se trouvent au même lieu, en sédiments superposés. La superficie de Tanger, de la Médina, c'est 26 hectares. C'est rien à côté de 300 hectares de Fès. Alors, sa superficie est d'ailleurs restée la même depuis l'époque romaine. Voilà. Les archéologues ont démontré, à partir des vestiges archéologiques, ils ont fait des cartes des villes superposées. La mosquée d'aujourd'hui, elle est sur le temple, le forum est sur le souk intérieur, qu'on appelle en tangérois, le souk d'Akhel. Elle est sur le forum, et ainsi de suite. Donc, et Tanger n'a jamais été une capitale islamique. Il n'a pas de grands monuments dynastiques du Maroc. Elle est très belle, mais elle est très récente. Elle a été reconquise en 1664, à l'époque de Moulay Ismaïl, par les tribus berbères du nord du Maroc. Et Tanger, il est célèbre, plus célèbre que Fès, que Marrakech, dans le monde, parce que il a existé surtout par le regard de l'étranger, de l'autre. Il a été peint, écrit, filmé par l'étranger. Alors ça, c'est à l'inverse. C'est l'inverse de Tanger. C'est la ville de la continuité. Mmh.
Donc on va parler plus de Fès, je pense, aujourd'hui.
On va se consacrer à Fès.
Oui. Docteur Mohamed Metalsi, tu combines archéologie, anthropologie, historique et urbanisme. En quoi cette triple approche renouvelle-t-elle la manière d'écrire l'histoire de Fès ?
Bien sûr. Cette triple approche permet de rompre avec le récit purement textuel ou événementiel sur Fès qui a longtemps dominé les récits sur la ville. L'archéologie apporte la preuve matérielle, indiscutable. Elle interroge le sol, les pierres, les fondations réelles et bouscule les légendes des textes médiévaux. L'urbanisme, lui, analyse la morphologie de l'espace, la logique des tracés des ruelles et la structure du bâti. Enfin, l'anthropologie historique redonne vie aux hommes et à la société. Elle étudie les pratiques quotidiennes, les corporations de métiers, les structures familiales, et ainsi de suite. Alors, croiser ces trois disciplines permet d'écrire une histoire globale où le monument n'est plus un objet isolé, mais le reflet direct d'une organisation sociale en mouvement.
Donc, on va s'intéresser peut-être au roman national. Ton travail, Dr Mohamed Metalsi, déconstruit plusieurs éléments du récit national traditionnel. Quels sont, selon toi, les points les plus sensibles ou les plus novateurs de cette thèse centrale ?
Le point le plus novateur est la remise en question des chroniques médiévales comme le Rawd al-Qartas, qui sont des récits politiques tardifs. Au XIVe siècle, au temps des Mérinides, et non des vérités historiques. On travaille à déconstruire ces fables traditionnelles par deux exemples précis. Il y a plein d'exemples. Le premier est le mythe d'une fondation soudaine et centralisée. L'archéologie, la morphologie urbaine prouvent au contraire une sédimentation lente et conflictuelle née de la fusion progressive des noyaux de peuplement distincts. Et tout au long des dynasties, il y a eu des rajouts, des croissances de la Médina jusqu'au XIVe siècle, jusqu'au Mérinide. C'est au temps du Mérinide que la superficie de la ville s'est stabilisée. Le second exemple est le mythe de la fondation de la mosquée Qaraouine. On parle souvent par Fatima Feria ou par sa sœur Myriam pour la mosquée des Andalous. Alors, l'examen critique des sources historiques et l'absence totale de preuves matérielles démontre qu'il s'agit d'une construction mémorielle tardive, c'est-à-dire mythique. Mmh. Il a été inventé des siècles plus tard, 6 siècles plus tard, pour sacraliser l'origine de l'institution et masquer la réalité politique et financière de son développement. Pour s'en convaincre, il suffit de revenir aux sources de l'époque et de constater un silence absolu. Mmh. Aucun document du 9e siècle, aucun texte contemporain de la fondation de la mosquée ne mentionne le nom de Fatima Zakaria. Il n'existe aucun acte de fondation, aucun document de waqf, d'habous, d'acte de donation pieuse, ni aucun récit administratif d'époque parvenu jusqu'à nous. Mmh. Plus frappant encore, les grands géographes et historiens des siècles suivants, du 10e, 11e, 12e, 13e siècle, décrivent la ville de Fès et ses mosquées avec précision. Mmh. C'est le cas de l'Yaqoubi, au 9e siècle, d'Ibn Hawqal, au 10e, de Bakri, dans son Kitab al-Masalik al-Mamalik au 11e siècle, traduit en français. Le silence est également total dans le Kitab al-Baydan d'Ibn Raqiq al-Qarwan, 11e siècle, pourtant centré sur l'histoire des Idrissides. Aucun d'entre eux ne souffle le moindre mot sur cette figure féminine ou sur cette supposée fondation privée. Le nom de Fatima Zakaria n'apparaît pour la toute première fois dans la littérature du XIVe siècle. Mmh. Il est introduit sous la plume de ce fameux Abézar al-Fassi dans son ouvrage Taraud al-Kerpas, comme j'ai dit, 6 siècles après, au temps d'Abou Hassan al-Mérinid. C'est la preuve qu'il s'agit d'une extrapolation tardive élaborée à l'époque mérinide pour donner une dimension mythique et pieuse à un édifice qui a en réalité grandi sous l'impulsion et le financement des pouvoirs politiques successifs. Il fallait plus de 5 siècles pour construire cette mosquée. Plus de 5 siècles. Mmh. C'est-à-dire à partir du moment, à partir des Idrissides, où ce qu'on appelle en jargon architectural une petite mosquée et un oratoire de 300 mètres carrés, jusqu'à Mérinide, qui l'a agrandi définitivement, 6000 mètres carrés. Mmh. Alors on ne peut pas projeter la mosquée d'aujourd'hui qui est définitivement clôturée au 14e, au 8e siècle, ce n'est pas possible. Donc ça c'est quelque chose d'absurde.
Docteur Mohamed Metalsi, tu proposes une trilogie, le Dédale, la grille et la tâche, pour décrire la sédimentation urbaine de Fès. Pourquoi ces trois métaphores?
Alors ces trois métaphores décrivent les trois temps, les trois espaces qui constituent la totalité de la ville aujourd'hui. Mm-hmm. Le Dédale désigne la Médina historique, c'est le Bali, le Sijdid, et les palais et les agdelles. C'est un espace organique fondé sur la hiérarchie de l'intimité, de la vie communautaire. Je décris en détail la logique du tracé, du bruit au silence, de pur à l'impur, du profane au sacré, de l'extérieur à l'intérieur, etc. Ça, c'est un travail qui fait plusieurs centaines de pages. Et la grille caractérise la ville nouvelle coloniale, planifiée au début du XXe siècle. Un espace géométrique, rationnel et octogonal, pensé pour le contrôle et la ségrégation fonctionnelle. Enfin, la tâche qualifie la croissance post-coloniale, cette expansion périphérique, contemporaine, souvent non maîtrisée, qui s'étale sur le territoire. Mmh. Alors, utiliser ces trois images, trois métaphores, permet aux éditeurs de visualiser immédiatement comme trois visions du monde et trois pouvoirs différents qui se sont sédimentés dans le sol de Fès.
C'est un vrai voyage dans l'histoire. On vous remercie infiniment, M. Metalsi. Contrairement au mythe du Dédale grec, tu montres que celui de Fès est lisible. Quel code implicite strictement cet espace et lui donne sa cohérence?
Alors, le Dédale de Fès, comme les autres Dédales, les autres Médinas marocaines, parce qu'il y a quand même une même logique, mais des situations différentes. Alors, le Dédale de Fès n'est un labyrinthe que pour l'étranger, qui n'en possède pas les clés. En réalité, c'est un espace d'une lisibilité, d'une logique implacable pour ses habitants. Sa cohérence intrinsèque repose sur une hiérarchisation stricte de l'espace, du public, du plus public au plus privé. Le réseau est structuré par des axes marchands et religieux majeurs, Trakvira, Tlasera, et ainsi de suite, qui font communiquer les grandes portes monumentales, universellement accessibles, d'où bien sûr que les rues secondaires, moins bruyants, puis des impasses purement résidentielles, je dis pas fréquentées par les étrangers, sauf s'ils ont quelque chose à faire dans cette impasse. Cette structure est régie par des codes sociaux et juridiques précis, pour aider, même moraux. Le droit du regard, la préservation de l'intimité familiale et la délimitation des espaces des corporations artisanales. Ce tissu urbain n'est pas né du chaos. C'est une architecture de la négociation sociale. Il est très planifié, mais ce n'est pas une société de l'écriture, c'est une société orale. Donc c'est la coutume qui prévaut dans l'organisation de l'espace.
J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais je pense qu'il y aura l'occasion que les auditeurs vous rencontrent à la Fondation La Maison du Maroc. Mais une question que je dois poser aujourd'hui, patrimoine en danger, tu lances un véritable cri d'alarme sur l'état du patrimoine de Fès. Quelle analyse fais-tu de la politique actuelle de préservation au Maroc et quelles mesures prioritaires recommandes-tu, Dr Metalsi?
La réponse à ta question demande beaucoup, beaucoup de temps. Mais la politique actuelle souffre d'une contradiction majeure. On investit des moyens considérables dans la restauration des monuments prestigieux, mais on néglige le tissu vivant de la ville, c'est-à-dire les maisons ordinaires, qui forment la majorité du tissu urbain, et les fonctions sociales et culturelles. C'est-à-dire quand on restaure une médersa, il faut restaurer ses fonctions. Il ne faut pas la laisser vide, parce que c'est une carcasse qui va demander encore plus d'entretien. Et la médina se vide de ses habitants, ou se transforme en un écomusée folklorisé pour les touristes, le patrimoine est mort. La réponse réside dans le refus absolu de la muséification. Une ville que l'on refuse de faire évoluer est une ville que l'on condamne à mourir. La réhabilitation de Fès doit obéir à une logique de continuité. Il s'agit d'introduire le confort contemporain, l'assainissement et les services essentiels, indispensables à la dignité des habitants, tout en respectant scrupuleusement la morphologie urbaine et l'authenticité des matériaux. La médina, n'est pas un décor archéologique figé, c'est un organisme vivant. Les ateliers d'artisans, par exemple, ne doivent pas être conservés comme des curiosités folkloriques. Le défi de la réhabilitation, c'est de leur permettre d'intégrer des innovations techniques, comme des fours moins polluants ou une meilleure gestion des ressources, tout en préservant l'essence et la transmission de leur savoir-faire ancestral. Sauver Fès, aujourd'hui, c'est maintenir sa population et sa production au cœur de la vieille cité, en lui redonnant des moyens économiques et sanitaires d'être pleinement habitable au XXIe siècle, sans jamais trahir sa mémoire structurelle. Mais pour réussir la restauration de la face nouvelle, et il faut s'occuper aussi de sa périphérie, la périphérie de la ville nouvelle, pour que les gens ne viennent pas habiter tous dans la médina. Donc ça veut dire que c'est une planification globale entre le centre ancien, la ville d'aujourd'hui et sa périphérie qui pose un problème énorme de planification, de rationalisation pour les habitants.
Merci beaucoup, Dr Mohamed Metalsi. Je rappelle qu'il y a un rendez-vous très proche pour discuter votre nouveau ouvrage, Le Temps de Fès, du mythe à la métropole, le 23 juin 2026 à 19h dans la salle de conférence de la Fondation Maison du Maroc. La rencontre sera modérée par le professeur Abdallah Benmelih. À travers cet ouvrage, c'est toute une manière de regarder Fès et plus largement les villes marocaines qui se trouvent renouvelées en revisitant les strates de la cité, en interrogeant ses mythes, ses ruptures et ses fragilités. Tu nous rappelles que la ville est un organisme vivant, fragile et qu'elle porte en elle les traces de nos choix collectifs. Merci pour cet éclairage précieux, pour cette lecture exigeante du passé et du présent et pour cette invitation à penser autrement notre rapport au patrimoine et à l'urbanité. Donc rendez-vous avec Mohamed Metalsi qui présentera son livre intitulé « Le temps » de de Fès, du Mythe à la Métropole, le 23 juin à 19h dans la salle de conférence de la Fondation Maison du Maroc. La rencontre sera modérée par le professeur Abdallah Ben Mlih. Merci beaucoup, Dr Mohamed Metalsi.
Merci, Zohar, de m'avoir invité dans ton émission. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. À bientôt.
Culture croisée sur Radio Orient.